05, yes, les patients politiques. Alors, les patients politiques, on va voir en deuxième partie davantage ce que ça veut dire, qui rejettent la culpabilité et l'innocence. Les patients politiques. Ça, c'est en écho par rapport à l'émission d'hier. Si ça vous dit rien, bon, tant pis, mais si vous avez pu écouter, tant mieux. Je vais commencer donc cette émission. Par l'éditorial du Ouest de France, d'un Ouest de France d'hier. Hier, nous étions le 22 février 2025, n'est-ce pas? Cette diffusion sera sûrement en avril maintenant. Quoi qu'il en soit, voici ce que j'ai retiré. Ça va à. Ça vient du journal, donc c'est qu'aujourd'hui, quoi, c'est actuel. Alors, et j'ai pris quelques passages. Donc, l'Allemagne, d'après 1989, avait externalisé ses besoins de sécurité vers les États-Unis, ses besoins énergétiques vers la Russie et ses besoins de croissance économique vers la Chine. All right. That's all right for me, that's all right for you, anyway. Donc ensuite, le vice-président américain, G.D. Vance, a infligé une véritable humiliation publique en mettant en cause le fonctionnement démocratique du pays, pourtant exemplaire en la matière, et en refusant de rencontrer le chancelier pour lui préférer la candidate d'extrême droite, Alice Weidel. En fait, là, il dit que l'Allemagne n'est plus ce qu'elle était, quoi. C'est ce qu'il dit dans ce petit éditorial. pas le rédacteur en chef de Ouest de France. Aussi est écrit « Des logements trop rares et chers, en numérique à la traîne, trop de trains en retard et de points délabrés. Qu'est-il arrivé à notre beau pays ?» résume le psychologue Stéphane Grunewald. Et pour finir, toujours dans cet article, « Un pays que l'histoire, donc l'Allemagne, que l'histoire après le traumatisme nazi semblait avoir cantonné à la paix, au respect sourcilleux de l'État, de droit et au doux commerce, mais que la géographie a placé au cœur de l'Union européenne. Il y a moins de kilomètres entre Berlin et la frontière ukrainienne qu'entre la capitale allemande et Paris. Désormais, bon, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, parce que si tu prends Berlin et Kiev, on ne sait pas qui est la capitale ukrainienne. Tu vois, parce que là, il met, y a moins d'écart entre Berlin et les frontières ukrainiennes. Ah oui, c'est vrai que oui. Qu'entre la capitale et... Ah oui, donc ouais, ça veut dire qu'ils sont proches quand même de l'Ukraine, mais pas de la capitale. Mais non, autant pour moi, j'ai pas réfléchi. Donc voilà, désormais, prise en étau, l'Allemagne entre Vladimir Poutine et Donald Trump. L'Europe ne saurait se faire respecter et résister aux pressions croissantes avec une Allemagne fragilisée et immobile. Et j'ai trouvé ça important de commencer l'émission par ça, car aujourd'hui, l'Allemagne est fragilisée et immobile. L'Allemagne, qui est aussi le cœur de l'Europe, l'Europe en général, est un peu fragilisée et immobile. La France aussi. quand j'ai lu les logements trop rares et chers, ok, le numérique à la traîne, ok, trop de trains en retard. Ah, ça, par contre, nous, niveau train, j'ai voyagé hein, beaucoup. En Allemagne, c'est vrai qu'ils sont un peu à la bourre. Et de ponts délabrés, bon, ça, je sais pas en France, sûrement moins, mais bon, on a carrément d'autres trucs aussi qui vont pas. Qu'est-il arrivé à notre beau pays? Je ne sais pas non plus. Parce que la France, c'est quand même un peu plus beau que l'Allemagne, hein. Bon. Non, c'est juste. C'est pour rire que je dis ça. En tout cas, maintenant, on va écouter un morceau de musique qui s'appelle Tropical Taiga, de l'album 5e saison de Charneux, Leleu et Puma. Donc, je vais vous donner lecture de Brim, en tout cas de beaucoup de passages soulignés, du livre Les partis politiques de Robert Michels. Et alors, attention, j'étais assez écœuré, ah ouais, j'étais très surpris de voir la date d'écriture du livre. C'est allemand, 1911. Ça date de 1911. Et c'est la traduction en français de 1914. Et donc, bon, à l'époque, lui, il rejoignait les idées de Georges Sorel. Georges Sorel qui était... Ouais, c'est assez délicat tout ça, mais plutôt, on le dit du côté gauche, mais bon, il était davantage contre un socialisme qui avait allié, qui était vu comme un allié de la démocratie bourgeoise. Lui, il était contre ce socialisme. Donc oui, c'était un socialiste, un vrai pur et dur, quoi. Mais bon, avec des idées... Et donc, oui, il était contre cette démocratie, cette gauche, ce socialisme, pardon, comme allié de la démocratie bourgeoise, c'est-à-dire menée par l'oligarchie. Ça, on se rapproche de Robert Michels. On va voir ça maintenant, et c'est assez c'est surprenant. Hein. Vous allez voir. Ouais, mais après, là, j'ai regardé, j'ai fouillé sur Internet. Robert Michels, après, il a adhéré au parti de... pas le parti nazi, mais si, un peu quand même, quoi. Parti national socialiste. Mais il est mort en 1936. Mais les nazis existaient déjà. En tout cas, ouais, je ne vais pas aller plus loin là-dedans, parce que je ne vais pas chercher là plus que ça. Et Sorel aussi, hein, je crois qu'il était un petit peu un facho de gauche, quoi. Bon. Parce que bon, c'était vraiment la gauche, mais à fond, quoi. C'était... serré, quoi, tu vois, et rien ne devait en dépasser, quoi. Bon, bref, je vais tout de suite commencer par le chapitre numéro 2, le besoin de chef chez les masses. Alors, que parmi les citoyens jouissant de droits politiques, il n'est pas exagéré d'affirmer que parmi les citoyens jouissant des droits politiques, le nombre de ceux qui s'intéressent vraiment aux affaires publiques est insignifiant. J'ai trouvé que, bon, aujourd'hui, ça aussi, on peut le dire, je pense. Même si je ne connais pas personnellement des... c'est nous tous en fait. C'est les citoyens de la nation, quoi. Parmi les citoyens jouissant des droits politiques, le nombre de ceux qui s'intéressaient vraiment aux affaires publiques est insignifiant. C'est vrai, c'est juste, encore aujourd'hui. Chez la majorité, le sens des rapports intimes qui existent entre le bien individuel et le bien collectif est très peu développé. C'est juste. Déjà en 1911. Alors quand on dit c'était pas pareil avant, si, ça l'était, mais c'était moins pire, quoi. Bon, la plupart n'ont pas le moindre soupçon des influences et des contre-coups que les affaires de cet organisme qu'on appelle État peuvent exercer sur leurs intérêts privés, sur leur prospérité et sur leur vie. Alors maintenant, il y a les caméras dans la rue qui peuvent... en truc matériel, je pense à ça. Tout ce que l'État peut faire... comme il est dit, la plupart n'ont pas le moindre soupçon des influences et des contre-coups que les affaires de cet organisme qu'on appelle État avec un E majuscule peuvent exercer sur leurs intérêts privés, sur leur prospérité et sur leur vie. En 1911, hein, c'est écrit ça, par un Allemand. Le mec, waouh, Robert Michels. Plus loin, c'est aux chefs eux-mêmes qu'on doit d'ailleurs attribuer en grande partie, l'insuccès du mouvement. D'un mouvement politique, s'il y a un insuccès du mouvement politique, c'est de la faute des chefs. On va expliquer, mais c'est logique. Les masses ne se rendaient pas compte de l'importance de la perte qu'elles allaient subir parce que les chefs ont négligé de leur en montrer toutes les conséquences. Habitués à être dirigés, les masses ont besoin pour se mettre en mouvement d'une préparation préalable. Mais lorsque les chefs leur font des signes qu'elles ne comprennent pas, parce qu'elles n'y étaient pas préparées, elles restent indifférentes. Donc le boulot du chef, c'est de préparer les masses. Et c'est aussi Bah oui, c'est de préparer les masses, sinon bah, t'es pas forcément un bon chef, quoi. Enfin, ça. Bon. Préparer les masses. La meilleure preuve de l'impuissance organique de la masse est fournie par ce fait que dès que la lutte la prive de ses chefs, elle abandonne dans une fuite désordonnée le champ de bataille, comme une fourmilière envahie par la terreur. Elle se révèle alors dépourvue de tout instinct de réorganisation. La masse. En fait, il faut un chef, quoi. Moi, il y avait un truc dans Le Cinquième Élément de Luc Besson, quand Bruce Willis, il veut sauver quelqu'un ou je sais plus quoi, et il y a cinq méchants, et il regarde, hop, et en une fraction de seconde, il voit le chef. Et puis tout d'un coup, il se lève, pom, il tire une balle dans la tête du chef. Puis après, il dit, bah, tu tues le chef, et il n'y a plus personne après. Et là, tu te dis, putain, ouais, Luc Besson, enfin, il l'avait vu, il l'a vu, quoi, il le sait. Enfin, Luc Besson, là, on prend cet exemple-là, mais. Et ouais, c'est ça, sans chef, il n'y a plus rien, quoi. Il a bon, dit la même chose avec Robert Michels. Que de grèves manquées et de mouvements politiques échoués parce que les gouvernements ont su, en temps opportun, mettre les chefs en sûreté. Et là, tu te dis, ça a été écrit en 1911, hein, et c'est aujourd'hui, c'est exactement pareil. C'est pareil, la même chose. Sauf que là, aujourd'hui, on ne les cache pas, on ne les met pas en sûreté, mais on les paye. Bon, c'est peut-être la même chose qui est écrite. L'incompétence! L'incompétence des masses se vérifie dans tous les domaines de la vie politique. Bon, il est sympa, il ne va pas avec le dos de la cuillère. L'incompétence des masses, hein, et constitue le fondement le plus solide du pouvoir des chefs. Elle fournit à ceci une justification pratique et jusqu'à un certain point morale. L'incapacité des masses de gérer leurs propres intérêts, quand nécessaire l'existence d'hommes d'affaires qui s'en occupent pour elles. C'est carrément vrai, même dans les affaires, tu vois, administratives. Oh ben lui, il s'en occupe, donc tu lui fais confiance. Et tu laisses faire, et tu sais pas faire. Si on se place à ce point de vue, on ne trouvera pas mauvais que les chefs imposent parfois aux masses leur direction. Ouais. L'insuffisante maturité politique des masses et l'impossibilité de réaliser le postulat de la souveraineté populaire dans toute son ampleur ont été reconnues par quelques-uns des partisans les plus ardents de la démocratie. Et après, attends. Alors voilà, et là, il y a le principe de la division du travail. Le principe de la division du travail crée la spécialité. Ce n'est donc pas sans raison qu'on a voulu comparer la nécessité de l'institution des chefs avec celle qui a provoqué la spécialisation. Mais spécialité signifie autorité. De même, le patient politique doit s'en remettre de ses affaires au chef du parti, lequel possède la compétence qui lui fait défaut. Bah oui, il va pas savoir comment faire, le patient politique. C'est un peu chacun de nous selon si chacun a ses pensées, ses convictions politiques. On s'en remet à quelqu'un qui est capable qu'on pense être capable de gérer notre conviction, en gros. On va voir plus tard, mais il faut qu'il ait de l'argent. On va voir ça plus tard. Alors, la démocratie finirait de la sorte par se transformer en une forme de gouvernement des meilleurs, en une aristocratie, la démocratie. Les chefs seraient aussi bien au point de vue objectif qu'au point de vue moral les plus capables et les plus mûrs. Aussi n'auraient-ils pas seulement le droit, mais le devoir de se mettre à la tête de la masse, et cela non seulement comme représentants d'un parti, mais comme individus fièrement conscients de leurs propres valeurs personnelles. Et là, quand j'ai lu ça, moi, je me suis rappelé. Tu sais, souvent je pense à ça, les chouans. Les chouans, c'était des nobles qui les menaient. Bon, c'était contre, ils étaient contre la révolution, eux. Enfin, ouais, un petit peu, quoi. Bon, bref, continuons. Toujours en 1911, les chefs et la presse. De façon dont les chefs utilisent la presse en vue de leur domination varie naturellement d'un pays à l'autre, selon les habitudes nationales. Là où l'organisation et la force du parti sont encore faibles, l'influence des chefs est directe et personnelle. Il en résulte, par exemple, que dans les pays comme la France, l'Angleterre et l'Italie, où le caractère populaire présente encore une empreinte fortement individualiste, le chef démocratique se considère comme l'auteur personnellement responsable de son article de fond. Le chef fait peser son influence sur les masses d'une façon directe, en manifestant son avis, ouvertement, en lui donnant souvent la forme d'un décret à la place la plus en vue du journal. Donc, ça, on le voit encore aujourd'hui. Hein. Mais aujourd'hui, c'est Internet. C'est... Internet, vu que c'est le monde entier, bon. Ça fait un problème en moins à gérer, peut-être, quoi. Bon, bref. Anyway, so we like to sing a song called Twist and Shout. 1, 2, 3, 4. Let's go, baby love. Bon, si les masses finissent un jour par ouvrir les yeux sur les violences que les dirigeants de leur parti commettent contre l'idéal de la démocratie. Écoutez bien. Là, on peut penser à le mec des Insoumis, là. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais. Leur étonnement et leur stupeur ne connaissent pas de bornes. Mais s'il leur arrive alors de se révolter, elles montrent par le sens et le caractère de leurs critiques combien peu elles se rendent compte de la véritable nature du problème. Elles estiment en effet que le meilleur moyen de combattre les maux oligarchiques dont elles souffrent consiste à renforcer la centralisation du pouvoir du parti. Centralisation qui est précisément la source des maux. Maintenant, chapitre 5. La lutte pour le pouvoir entre les chefs. La thèse de la puissance illimitée des chefs dans les partis démocratiques appelle cependant une restriction. Théoriquement, le chef est lié à la volonté de la masse. Il suffit d'un signe de celle-ci pour qu'il soit obligé de se retirer. Il est à chaque instant amovible et remplaçable. Nous avons vu cependant que, dans la pratique, de nombreux facteurs concourent à assurer au chef une très grande indépendance. Il n'en reste pas moins que si le parti démocratique ne peut se passer de chef autocratique, il peut du moins les changer. Il en résulte, j'espère que ça va être possible avec Trump et Musk, en tout cas on continue. Il en résulte que le défaut le plus grave d'un chef consiste à avoir une confiance trop aveugle dans les masses. Et là, admettons, donc Trump s'est fait élire, il est trop aveugle dans les mecs qui votent pour lui, quoi. Il y croit dur comme fer à ce qu'il pense, quoi. Et il croit que c'est ça qui va changer le monde, quoi. Pour le meilleur, peut-être. Moi, je suis pas dans son slip, hein, je sais pas exactement. Mais le contre la deuxième phase de Trump, c'est Musk, qui lui est là pour peut-être leur mettre. Justement, pour leur mettre un petit peu redescend, quoi. Mais un jour, vu que c'est deux égaux, tous les deux, assez démesurés, un jour, ça va clasher. Hein. Regarde Lennon et McCartney. Ça va clasher. Hein. Je les compare pas, hein. Mais je dis que deux égaux de puissance... Trump et Musk, ça n'a rien à voir avec Lennon et McCartney. Non, mais l'exemple n'a rien à voir. Enfin, c'est pas lié, quoi. C'est juste... Bon, vous comprenez ? Deux égaux. J'aurais dû dire deux égaux forts l'un à côté de l'autre, à un moment, paf, ça clash, quoi. Il est vrai que la masse est toujours incapable de se gouverner elle-même. Mais il est également vrai que chacun de ses membres, pour peu qu'il réunisse qualités bonnes ou mauvaises, qui lui permettent de s'élever au-dessus de la foule, peut conquérir le grade de chef et assumer la direction de celle-ci. Ouais, c'est ce qu'on voit souvent dans les manifestations. On a prétendu que les révolutions populaires finissent en général par détruire leurs chefs. Pof ! Allez ! Ben oui. Parce que tu commences à te soulever, t'as une idée, t'as un chef qui se met tout seul devant toi. Ouais, c'est lui, c'est notre chef. Puis après, à un moment, le chef, il va un peu trop loin, il est un peu trop gourmand, il en fait qu'à sa tête, et puis bam, il se fait jarter. Allez, dégage. Mais au fur et à mesure que les dirigeants des syndicats se spécialisent dans ces questions pratiques, ils perdent la faculté d'embrasser d'un coup d'œil d'ensemble le mouvement ouvrier, sinon dans sa totalité. Puis ils consacrent à l'étude des questions techniques. Ils se consacrent. Et en même temps, pour leur façon de juger des questions internationales devient de plus en plus fausse. Et vous rappelez-vous quand je vous parlais de cet équilibre cosmique qui fait qu'on est tous, on est tous victimes, on est tous coupables d'être victimes, mais encore faut-il s'en rendre compte. Et en fait, tout le monde, tout autour de nous, nous-mêmes sommes comme ça, il y a un équilibre qui se fait en nous, et là, c'est repris avec la liberté et l'autorité. Alors, les deux termes opposés que nos hommes d'État ont jusqu'ici considérés comme inconciliables, dont la fusion leur apparaissait même comme une véritable pierre philosophale, c'est-à-dire la liberté et l'autorité, ces deux extrêmes sont unis de la façon la plus intime dans notre association, qui représente ainsi le modèle en petit de notre forme sociale prochaine. C'est-à-dire que le besoin de la liberté et de l'autorité est un besoin humain, quoi. C'est l'éthique, tu vois, ça appartient, je pense que ça appartient à l'éthique. La dictature n'était donc pas, aux yeux du président, une simple nécessité momentanée qui s'impose à une organisation en état de lutte, mais bien le but final même du gouvernement ouvrier. De quoi? De quoi qui était le but final? Relis. La dictature n'était donc pas, aux yeux du président, une simple nécessité momentanée qui s'impose à une organisation en état de lutte, mais bien le but final même du mouvement ouvrier. Donc la dictature, c'est le mouvement final. C'est un chef pour, besoin d'un chef pour les. Je prendrai aucun exemple, mais les mouvements ouvriers ont besoin d'un chef qui entend leurs besoins, mais qui entend, qui donne l'apparence, l'illusion du moins, d'entendre, de comprendre. Pour se faire élire. Mais ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin juste d'élire quelqu'un qui va leur donner l'illusion de faire quelque chose pour eux. Non, ils ont besoin qu'on fasse quelque chose pour eux. Ce qui, aujourd'hui, me paraît impossible. Ouais. Je pense que. Ouais, mais je l'ai déjà dit. Hein. On fait. Non. Le monde est ainsi. Hein. C'est. Donc ensuite. Alors il parle de Marx, la conduite du Conseil général et celle de Marx en particulier ont été dénoncées comme étant en opposition avec le socialisme. Marx. Parce que dans leur funeste avidité du pouvoir, ces hommes, disait-on, introduisaient dans la politique des ouvriers les principes de l'autoritarisme. Ces accusations partirent pour la première fois du dehors, c'est-à-dire de groupes qui n'étaient pas représentés au Conseil général. Les accusateurs étaient Bakounine, les Italiens, les Jaurésiens. Les autoritaires usant de moyens dont tous n'étaient pas recommandables, en recueillant des mandats, en convoquant le congrès dans une ville peu accessible à certains des opposants, tout à fait inaccessible à d'autres, remportent sur les anti-autoritaires une victoire complète. Bah oui, quand c'est facile de. Oui, bah tu vois, quand la communication n'est pas venante, forcément. Donc, mais peu à peu, les voix se sont élevées au sein du Conseil, même pour blâmer l'ambition démesurée de Marx. Tu vois, moi ça je l'ai appris. Mais après, il faut pas oublier. Bon, alors 1911, le mec, il était pas, il avait ses idées vraiment comme un peu à la Sorel, vraiment avec la gauche qui était contre la qui était contre la gauche alliée avec la démocratie bourgeoise, mais qui n'était pas encore. Attends. Donc là, maintenant, ça va être assez important, assez intéressant. Donc, au Parti socialiste, est échue la tâche involontaire d'éloigner du prolétariat quelques-uns de ses éléments les plus capables et les plus avisés. Or, d'après la conception matérialiste de l'histoire, la métamorphose sociale et économique entraîne peu à peu une métamorphose idéologique. Aussi, chez beaucoup d'ex-ouvriers, l'embourgeoisement s'opère-t-il très rapidement ? Certes, nombreux sont encore les ouvriers qui, tout en ayant atteint une situation économique et sociale plus élevée, n'en restent pas moins toute leur vie durant profondément attachés à la cause socialiste. Et là, c'est la même chose. Ça m'a rappelé une scène d'un film, Rocky 3, que j'ai beaucoup regardé quand j'étais petit, parce que c'était pas... le 1 et le 2, bon, ok, on connaît... Non, le 3, je trouve vraiment qu'il y avait quelque chose de vraiment spécial... Je me rendais pas compte, maintenant je comprends. Au début, enfin, Rocky, en fait, il y a son coach, son Mickey, son manager, il lui dit bah oui, mais moi, toi, quand t'as gagné le titre, t'étais vachement amoché et je voulais que tu restes en vie, donc t'as rencontré des boxeurs minables. Et Rocky, il regarde, attends, tu fous de ma gueule, tout le monde m'adule, je gagne plein de fric et tout. Et là, Mickey, son manager, il lui dit, tu t'es embourgeoisé. Et maintenant, je me rends compte qu'en fait, le fait de gagner de l'argent, parce que Rocky, il sort, il travaille dans un abattoir, tu vois, puis du jour au lendemain, il tombe contre Apollo Creed, il manque de gagner de devenir le champion du monde des poids lourds. Donc, ça, c'est le 1. Dans le 2, comme c'était un peu un match nul, il raille à la revanche et il éclate Apollo Creed. Et le 3, eh ben, il s'est embourgeoisé. Et là, Apollo Creed revient. Et il dit, non, il faut que tu aies l'œil du tigre. Rappelle-toi nos combats. Et là, c'est parti. Tain, 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 tain. Voilà. C'est un lien économique. Voilà. Et donc là, ouais, grâce à ça, je comprends bien. C'est des trucs qui sont communs, ça. À partir du moment où on gagne de l'argent, on s'embourgeoise, on s'éloigne carrément de notre première vie, en fait, de ce à quoi on était. On était, quoi. On oublie. Et on passe à autre chose, et on oublie. Enfin, je me répète, là. Mais bon. Vous avez compris? Yes, it is, Johnny! Et voilà, donc maintenant, la base conservatrice de l'organisation. Et là, j'ai annoté, les chefs sont riches. Et alors, carrément, les chefs, en fait, le chef, là, on va prendre deux exemples qui sont français, de présidents, là, du 21e siècle. Macron, bon, il a du pognon, c'est clair, il a travaillé, avant d'être président, il a travaillé dans des grosses trucs de... dans des grosses boîtes très riches, ça, je sais pas combien il a, il ne l'a pas dit, mais... Et aussi, donc là, il n'était pas riche, mais il y a Monsieur Nicolas Sarkozy, avec Monsieur Kadhafi. J'ai été voir un film au cinéma, je crois que c'est Personne n'y comprend rien, et c'est des mecs, Mediapart, qui a fait tout un boulot là-dessus, et tu te dis, en fait, Sarkozy, bah, ils ont tout, ils ont toutes les preuves, quoi. Il peut pas nier, et bien Sarkozy, il nie. Mais il peut pas. Enfin, après, c'est montage, c'est une émission. Même moi, je sais pas si c'est vrai. Mais si, ils ont aucune raison de mentir, quoi. C'est Mediapart, enfin, vous connaissez. Bon, on va s'arrêter là. Mais bon, c'est pas clair, quoi, tu vois. Et ben voilà. Donc, on a besoin d'argent si on veut mener. Bon, là, c'est un gros poste quand même, président de la République. Si on veut mener un pays, il faut beaucoup de blé, quoi. Tu vois. Devons-nous considérer comme une utopie non seulement le socialisme comme tel, mais encore la simple politique socialiste? Alors ça, j'ai pas la réponse, perso. Enfin, si, je vais peut-être l'avoir plus tard. Devons-nous considérer comme une utopie non seulement le socialisme comme tel, mais encore la simple politique socialiste? Ben, comme ça, là, j'irais peut-être oui. L'utopie socialiste, l'utopie communiste, il est sûr que l'utopie politique. Bon, on a besoin de... Je parlais de la masse, mais c'est nous tous, quoi. On a besoin de gens, de personnes qui règlent les problèmes qu'on ne peut pas gérer. Surtout à des niveaux aussi haut élevés que ceci, que cela. En fait, ils sont faits pour ça, quoi. C'est la spécialité. En fait, diviser pour mieux régner, quoi. On divise, on se met en, chacun sa spécialité, et tu restes à ta place et tu viens pas essayer de prendre la mienne. C'est moi qui chapeaute. Et ça, bah, j'ai pensé que c'était peut-être une étape finale. C'était dans un journal, j'ai une première page, un truc comme ça, du journal Le 1, ou je sais plus. Il parlait de, justement, étape finale du capitalisme, qui serait la fin de la démocratie. Mais ça, ils le disent là, aujourd'hui, en 2025, tu vois. Sauf que lui, il disait au début du 20e, Robert Michels, étape finale du capitalisme, fin de la démocratie. Donc, la démocratie, le pouvoir au peuple, ça s'avère être une vaste fumisterie, une vaste connerie. Car comment le peuple, on est tous différents, on peut prendre la place de quelqu'un, d'un chef, d'une personne humaine, à moins que ce soit un robot, qui prendra des décisions très justes, s'il est programmé pour, et s'il n'est pas piraté. C'est peut-être un robot qu'il faut en maître du monde. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Mais ouais, en fait, c'est ça qu'il faut. Un robot, maître du monde, qui prend on le programme avant, tchac, 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 qui prend des décisions justes, impiratables, le truc. Et là, pas de problème. Plus de guerre, plus rien, destruction de toutes les armes. Et là, tout le monde vit dans la joie et le bonheur. Ça, c'est de l'utopie aussi. Ouais, sûrement. Donc, considération finale, chapitre 3. Donc, c'est le dernier, c'est la conclusion. L'existence de chef est un phénomène inhérent à toutes les formes de la vie sociale. La science n'a donc pas à rechercher si ce phénomène est un bien ou un mal, ou plutôt l'un que l'autre. Mais il est en revanche d'un grand intérêt scientifique d'établir que tout système de chef est incompatible avec les postulats les plus essentiels de la démocratie. Fait que les chefs sont techniquement indispensables, donc. Plus loin. Le phénomène oligarchique qui se poursuit de la sorte trouve donc en partie une explication psychologique, c'est-à-dire qu'il découle des transformations psychiques que les différentes personnalités du parti subissent au cours de leur vie. Mais il s'explique aussi, et même en premier lieu, par ce qu'on pourrait appeler la psychologie de l'organisation elle-même, c'est-à-dire par les nécessités d'ordre tactique et technique qui découle de la consolidation de tout agrégat politique discipliné. Peut-être, voilà, formulé ainsi, l'organisation est la source d'où naît la domination des élus sur les électeurs, des mandataires sur les mandants, des délégués sur ceux qui les délèguent, qui dit organisation dit oligarchie. Mais on rencontre aussi partout un pouvoir presque illimité des élus sur les masses qui élisent. Et comme on a vu au début, qui s'en contrefout un peu de des valeurs publiques. La structure oligarchique de l'édifice en étouffe le principe démocratique fondamental. Ce qui est opprime ce qui devrait être. Ce qui est opprime ce qui devrait être. Pour les masses, cette différence essentielle entre la réalité et l'idéal est encore un mystère. Les socialistes croient souvent, et en toute sincérité, qu'une nouvelle élite d'hommes politiques tiendrait ses promesses mieux que la précédente. Et ça, tu vois, ça fait plus d'un siècle, hein, 1911, hein, ça fait plus d'un siècle que ça dure. On croit toujours, ah ouais, mais ça, il l'a dit la dernière fois, mais lui, il le dit aussi, mais lui, il va le faire. Ouais, allez, on y croit. Et en fait, bah, moi, je pense qu'en tout cas en France, le mec, il arrive au pouvoir et il dit, ah ouais, j'avais une bonne idée, en tout cas pour me faire élire. Mais putain, il y a d'autres trucs à faire et c'est pas vraiment pareil maintenant. Hein. Wow, c'est bazar en fait, c'est pas facile. C'est pas facile à faire. Et si je le fais, j'aurais lui en moins, il me donnera pas d'argent. Lui non plus, ce qui fait que bah, là, je pourrais pas en donner. Donc ça va être un peu compliqué. Donc on va pas y toucher. Et on va faire autre chose. Voilà. Bon, la masse ne sera jamais souveraine que d'une façon abstraite. Écoutez bien. La masse ne sera jamais souveraine que d'une façon abstraite. On doit plutôt se demander jusqu'à quel point et dans quelle mesure la démocratie est désirable, possible et réalisable à un moment donné. La grande erreur des socialistes, erreur qui découle de leur connaissance psychologique insuffisante, consiste à faire preuve en même temps que d'un pessimisme parfois excessif relativement au présent, d'un optimisme trop rose et d'une confiance trop illimitée relativement à l'avenir.
J'étais assis bien tranquille devant mon café quand ils sont arrivés. Trois types en jean, néon, blouson de cuir que je n'avais jamais rencontré. Les gens du bar n'ont rien dit quand ils ont commencé leur numéro de terreur de quartier. Au même moment, je me suis levé pour mettre un franc dans le jukebox pour écouter une bossa nova. Mariole m'a dit, toi le guignol, tu vas me changer ça tout de suite. Allez vite, 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 avant qu'on se fâche et qu'on te mette la tête sur satellite. Sans m'appeler, je l'ai regardé comme un martien regarderait une stalactite. J'ai rejoint ma flotte tout en claquant des doigts pour marquer le tempo de 7. Bossa nova, bossa nova. Ils ont renversé du ketchup sur ma chemise en me disant qu'est-ce que t'as dans l'étranger pour prendre tes billets, boucler ta valise. Si c'est une anse que vous cherchez les gars, venez, y'a la nouvelle que j'ai apprise. C'est tout dans les pieds, c'est tout dans les fonds, croyez-moi, vous ne l'oublierez pas cette bossa nova.
On a pu écouter Bossa Nova par Ringo, le chanteur français. Il n'est pas connu, il ne parlait pas en allemand. Les masses, disent-ils, seraient encore infectées du virus oligarchique parce qu'elles ont été opprimées par de longs siècles d'esclavage et n'ont jamais joui d'une existence autonome. Le régime socialiste aura vite fait de leur rendre la santé et de leur donner toutes les aptitudes dont elles ont besoin pour se gouverner elles-mêmes. Que de l'illusion. Rien de plus anti-scientifique que la supposition que, lorsque les socialistes auront pris possession des pouvoirs publics, il suffira que les masses exercent un léger contrôle pour faire coïncider les intérêts des chefs avec eux de la collectivité. On ne peut lui comparer que cette autre supposition, aussi anti-scientifique qu'anti-marxiste, de Jules Guesde, lequel se dit pourtant marxiste, à savoir que, de même que le christianisme a fait de Dieu un homme, le socialisme fera de l'homme un Dieu. De l'illusion. Tout ça est de l'illusion. Autant que Dieu est un homme ou que le socialisme fait de l'homme un Dieu, c'est que ça, c'est que de la bourre. Alors, incompétence incurable. Attends. La nature même de la masse en tant que masse, qui même organisée, est affligée. La masse donc, est affligée d'une incompétence incurable à résoudre tous les problèmes variés qui se présentent, et cela parce que la masse en elle-même est amorphe et a besoin de division du travail, de spécialisation et de direction. Ah oui, il y a les spécialités, la division. On a besoin de ça. L'espèce humaine veut être gouvernée, elle le sera. Mais vrai, elle, lui, c'était un Allemand, donc c'était encore plus, quoi. Je pense que dans leur mentalité, on sait comment ça a tourné. J'ai honte de mon espèce. Attends. L'espèce humaine veut être gouvernée, elle le sera. J'ai honte de mon espèce, écrivait Proudhon de sa prison en 1830. Proudhon qui a dit la propriété est une erreur ou enfin, un truc comme ça. Enfin, c'était un anarchiste français. L'homme individuel est par sa nature voué à être guidé et à l'être d'autant plus que les fonctions de la vie se divisent et se subdivisent davantage. Et cela est encore plus vrai du groupe social. Et là, dans un groupe social, il faut un leader. Mais maintenant, si on revient à ce que je vous dis à longueur de mes shows, il y a le côté invisible. Lui, il ne faut pas l'oublier. Parce que côté invisible, quand on est seul, pour certains d'entre nous, c'est dur. Mais quand on est seul, en fait, on n'est pas seul. Il n'y a personne autour de nous. Dans la sociologie actuelle, c'est être seul. Mais ça, c'est du bourrage de crâne. C'est pas vrai. C'est plutôt la liberté d'être seul et de se retrouver et de se poser des questions. Et là, aller au-delà de la solitude. Et comme disait Deleuze, quelque chose que je m'en rappelle à jamais, ma solitude est très peuplée. En discussion avec Claire Parnet. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Donc je peux continuer ? Donc comme vous le voyez, tout ce que je dis là, par rapport au côté invisible, là, on est dans la réalité. Dans la réalité, on a besoin d'un chef. Mais dans le côté invisible, on n'a pas besoin de chef. Le seul chef, c'est nous, en fait. Par rapport à notre schizophrénie. À notre peuple intérieur. La démocratie est un idéal qui n'aura jamais pour l'histoire humaine autre valeur que celle d'un critère normal, moral, permettant d'apprécier dans ses oscillations et nuances les plus légères de l'oligarchie immanente du régime social. Ok. Et pour finir, enfin, ce livre était vraiment assez passionnant en soi. Les partis politiques de Robert Michels de 1900. Et tu vois, on pourrait se dire que c'est plus. C'est fini en 2025, Johnny. Mais non. En 1911, c'était pareil. Si tu prends pas les. Tu fais attention au nom, tu t'en fous. Enfin, tu t'en fous pas, mais. Ouais. Dès qu'elles ont atteint un certain degré de développement et de puissance, les démocraties commencent à se transformer peu à peu en adoptant l'esprit est souvent aussi des formes de l'aristocratie qu'elles avaient auparavant si âprement combattues. Mais contre la traîtresse se dressent sans cesse de nouveaux accusateurs qui, après une ère de combats glorieux et de pouvoir sans honneur, finissent par se mêler à la vieille classe dominante, cédant la place à des opposants nouveaux qui, à leur tour, les attaquent au nom de la démocratie. Et ce jeu cruel ne prendra probablement jamais fin. La barge russe, tous les jours, à 14h, avec Johnny Tuvbeck.